Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Elle est prête à nous régaler, elle a enfilé son tablier et nous on attend avec Mélanie, spatule et fouet à la main.
Non, oui.
C'est pas vrai. Enfin, on attend surtout impatiemment la dégustation que vous allez nous proposer aujourd'hui, Sophie Menu. On vous écoute.
Oui, tout à fait, je vous ai apporté des tas de choses parce qu'aujourd'hui nous sommes le 6 décembre, vous n'êtes pas passé à côté de cette date, c'est la Saint-Nicolas. Alors j'en profite pour faire un petit message personnel à notre réalisateur qui s'appelle Nicolas.
Ah oui,
bonne fête.
Bonne fête Nico.
À mon fils aussi qui s'appelle
bonne
Nicolas.
Fête. L'anniversaire
de fils de Sophie. Et alors Nicolas Perrac, qu'on adore également.
Alors, il y en a plein, Nicolas.
Mais Nicolas Caro aussi, qui présente l'émission Livre, bien sûr.
Et un petit hors-sujet d'ailleurs, je souhaite un bon anniversaire au chef Joseph Viola, qui nous écoute aujourd'hui et qui est fan de l'émission.
Ah, bah,
ça,
bon
c'était
un hors-sujet.
Bisous.
Alors,
puisqu'on y est, je souhaite une bonne fête à mon frère. <c'est pas Nicolas. rire>
Là. Bon alors effectivement c'est la Saint-Nicolas, c'est l'occasion de préparer et de parler de petits biscuits qui sont liés à ce jour de fête.
Mais c'est qui Nicolas ?
Alors Nicolas, la légende de ce personnage est liée à celle de Nicolas de Myre qui est né en Asie mineure dans ce qui est maintenant la Turquie il y a très longtemps, au 3e siècle. Mmh. Il était protecteur des enfants, des matelots, des commerçants et il accomplissait toutes sortes de miracles. C'était un saint homme. Hein. Et la légende raconte qu'il aurait ressuscité des enfants qui étaient tués par un boucher.
Pas mal. Bah,
en fait, il s'était invité à déjeuner chez un boucher et il lui a demandé du petit salé. Et le gars, pensant qu'il était découvert, lui a avoué qu'il avait tué ses trois petits-enfants.
Oh, et qu'il avait mis du sel dessus.
Oui, alors, alors il a ressuscité, puisque c'était un saint. Ils étaient bizarres, les bouchers, à cette
heureusement
époque.
Heureusement qu'il est passé par là. Hein.
Heureusement, il a ressuscité ses trois petits-enfants. Et puis, pour punir le boucher, il a attaché à son âne. Et du coup, ce Nicolas a pris le nom de...
Père Fouettard.
Bravo, Julia, elle suit. Mais moi, je préfère quand même l'histoire qui raconte qu'il est devenu Saint Nicolas, puis Santa Claus, et enfin...
Père Noël.
Bravo, Jésus. Alors, il est d'ailleurs représenté avec un bonnet rouge, une barbe blanche et une croix dans la main. Et c'est une campagne de publicité qui l'a encore plus immortalisé, on va dire, en 1930. Coca-Cola, hein, puisque c'est la marque est rouge et blanche. Et à l'époque, à Noël, en fait, vers Noël, il buvait moins de Coca-Cola. Donc, il y a un illustrateur qui s'est dit, je vais essayer de relancer les
ventes. Une bonne idée.
Ouais. Et il représentait, en fait, Saint-Nicolas donnant à boire du coca à des petits-enfants. Et il est devenu évidemment très célèbre.
Mais alors Sophie, c'est quoi le rapport avec la pâtisserie ?
Alors déjà, je voudrais savoir si vous avez été sage autour de cette
table. Très, faites passer ça.
Parce que j'ai apporté des tas de friandises. Alors oh là là, il est coutume de préparer des biscuits traditionnels ce jour-là. Parce que depuis le jour de sa mort, Saint-Nicolas est célébré dans beaucoup de pays du Nord. Allemagne, Suisse, Autriche, Luxembourg, Pologne, Pays-Bas. Et chez nous, et peut-être que c'est d'ailleurs chez nous, Julia, ne vous étouffez pas, en fait, dans l'Est, qu'on fête le plus la Saint-Nicolas. Alors, mais je voudrais faire une petite aparté parce que je sais que Sophie quelque chose à nous, même chanter, non Sophie ?
Alors moi j'ai grandi en Hollande et en Hollande on fête Sinterklaas. Ah ben c'est la petite chanson. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laasje, dank je Sinterklaasje. Voilà, c'était cadeau, c'était pour vous.
Bravo, merci Sophie. Alors, je fais passer ça aussi. Alors ça, ce sont des meneleux. Ce sont ces fameux petits biscuits que l'on prépare dans la nuit du 5 au 6, puisque Nicolas passe chez tous les enfants sages. Hein, je répète, il faut être très sage.
Très.
Et les enfants lui posent un petit verre de vin ou de vin chaud ou de lait. Et puis lui, il apporte en fait ses petits biscuits. C'est la tradition. Meneleu, ça veut dire petit bonhomme.
Bon. D'accord.
Et je vous ai apporté aussi des bredeleu. Alors ça, c'est typiquement alsacien, parce que je voulais vous rappeler que ce sont les marchés de Noël qui ont commencé début décembre et pendant tout le mois en Alsace. Et je vous encourage à aller passer quelques jours, si vous pouvez, ou un week-end, parce que c'est vraiment génial. Vous avez eu déjà l'occasion d'y aller ?
Jamais. Non, jamais. J'aimerais bien
fabuleux.
Faire le marché de Noël.
Sophie
Brachmann,
je pensais aller retourner en enfance.
Elle mange tout. Strasbourg, Colmar, Kaisersberg, Ribeauvillé, c'est des villages incroyables où on peut trouver ces biscuits.
Et vraiment, je voulais remercier votre mari qui nous a ramené toutes ces friandises. Hein. Merci à lui.
Ce week-end, dans cette émission.
Sophie, est-ce que vous pouvez nous donner la recette si tant est que quelqu'un veut le faire chez soi ?
Mais oui, vous, Julia, vous allez la
bien
faire.
Bien sûr.
Mène-le, hein, c'est ça.
Mène-le, petit bonhomme. Allez. Alors, très simple. Vous délayez un sachet de levure de boulangerie dans 30 centilitres de lait tiède. Dans le bol d'un robot, c'est mieux d'avoir un robot. Vous versez 600 g de farine, 50 g de sucre, un œuf entier, 60 g de beurre pommade et vous mettez en marche. Je suis contente de voir que ces biscuits ont un succès.
succès.
Ensuite, vous versez le lait, vous continuez de faire tourner jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Vous laissez gonfler pendant au moins 3 heures. En fait, c'est le principe d'une brioche. Puis on dégaze. Vous savez ce que ça veut dire, dégazer ?
Non, mais
on retire le gaz.
Oui, mais comment ?
Ah, j'en sais rien.
On tape, en fait, on tape sur la pâte comme ça avec son poing et ça enlève en fait les bulles d'air qui se sont formées. Et là, c'est le moment qu'interviennent peut-être les enfants. Hein, autant les occuper, surtout si on fait ça un week-end et qu'il pleut. Mm-hmm. On leur demande de former.
Surtout quand les classes sont fermées. Hein, parce que moi, j'en ai une à la maison, là, en ce moment.
Voilà, Mélanie. Mais attendez, il y a les annonces du gouvernement tout à l'heure. Ouais.
Et alors, Mélanie, en plus, il y a un site où vous pouvez trouver plus de 800 formes d'emporte-pièces différents pour faire ces petits biscuits.
Deux, trois suffiront. Hein,
ça va l'occuper le week-end prochain. Et donc, vous formez un petit bonhomme, vous refaites lever 30 minutes, et puis vous décorez avec les pépites de chocolat, vous avez vu, il y en a qui ont des petites pépites de chocolat qui font les yeux, les petits boutons. Ouais. Vous mettez au four et puis vous dégustez.
C'est pas très difficile, hein ?
Pas du tout.
Bah, j'allais vous poser la question, c'est dur à faire ça,
non,
Sophie ?
Non, Julia, j'aimerais bien que vous essayiez, que vous nous en parliez prochainement.
Bah écoutez,
elle vous demande parce qu'elle a pas écouté quand même. Hein.
C'est dur à faire !
Mais la recette est écrite et elle peut la retrouver sur le site.
Vous savez que souvent je prends en photo vos recettes et je me dis qu'il faut que j'essaie à la maison. Mais j'ai pas encore.
Vous avez commencé ? Non, pas encore.
Non, j'ai pas encore commencé.
Je dois la croire ou pas ?
Sinon, elle les prend en photo, je l'ai vu faire. De là à dire qu'elle va jusqu'au bout de la recette, c'est une autre histoire.
Par contre, je mange bien, c'était délicieux, merci.
Elle vous fait honneur
merci
à chaque
à vous,
fois, quand même.
C'est vrai, ouais, je suis flattée.
C'est déjà ça. Merci beaucoup, Sophie Menu, pour cette délicieuse merci chronique et cette dégustation parfaite qui nous a fait replonger en enfance, surtout Sophie Braffman, j'ai l'impression.
Vous voulez pas avaler, Mélanie ?
Bon, la morale, c'est surtout qu'il n'a pas d'âge pour se faire plaisir avec ce genre de douceur. On revient dans quelques minutes avec d'autres tendances. Enfin, surtout déjà les potins tendances du côté de la mode. Le tout décrypté par la talentueuse et piquante Sophie Braffman. Et puis, Benjamin Lévesque va nous donner ses conseils beauté du jour. Je crois que ce midi, il va nous proposer d'opter pour le lin à toutes les sauces. Enfin, surtout dans nos crèmes de beauté. Toutes ces bonnes recettes et ces bons plans. Vous vous posez la question ? Eh bien non, hein, c'est sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à midi et demi avec notre trio de chroniqueurs, ça n'existe pas.
C'est les biscuits.
Ça. On a bien démarré cette séquence avec les conseils culinaires de Sophie Menu et à présent c'est une autre Sophie qui va passer derrière le micro.
Une chanteuse je crois.
Oui, une grande chanteuse,
chanteuse
de chant hollandais. Sophie Braffman, vous êtes notre experte mode et c'est à vous, vous êtes allée récemment au cinéma je crois.
Alors c'est surtout que j'avais envie de vous parler de potins, je trouve que lundi c'est un bon jour pour parler des potins, on a reposé son closer, son voici, on est contente. Et je voulais vous parler bien évidemment du film The House of Gucci que vous avez vu, hein, Julia d'ailleurs, dimanche dernier, avec son héroïne Lady Gucci, comme se faisait appeler Patricia Reggiani, la femme d'Aldo, dont elle a quand même commandité le meurtre, hein, donc incarnée par Lady Gaga. Donc on a déjà une ambiance très sulfureuse au démarrage. Alors la famille s'est insurgée contre le film, menaçant même de porter plainte. Pourquoi ? Parce que selon ses dires, le film montrerait Aldo Gucci et ses proches comme des hooligans ignorants, je cite, et insensibles au monde qui les entoure. Difficile en effet d'appartenir à un clan aussi luxueux où le faste aussi faisait partie des maîtres mots et d'être une grosse brute en vrai. Mais les hommes de mode sont-ils nécessairement aussi raffinés voire aussi bling que leurs vêtements ? Vaste débat, l'histoire jugera.
Bon, et dans la vraie vie alors ?
Alors, dans la vraie vie, eh bien, les ventes de Gucci Vintage sont envolées dès le premier jour de la sortie du film.
Ça m'étonne pas.
25% de demandes en plus, hein, donc pour la marque enregistrée par le site Vestiaire Collective, avec notamment un engouement fort pour les sacs, la fameuse casquette monogramme qu'on connaît tous. Bon, pas de quoi réjouir la famille, évidemment, hein, puisque la marque ne lui appartient plus depuis longtemps et qu'elle est la propriété du groupe Kering. Famille qui regrette aussi le traitement de la meurtrière. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Julia, mais Patricia qui est présentée un peu comme une victime.
Bah oui, c'est-à-dire que Lady Gaga joue super bien et à un moment donné, quand elle se fait planter par son gars, on est en empathie avec elle. Mais de là à adouber le meurtre.
Non, alors c'est vrai que cette fameuse Lady Gucci, parce qu'elle s'est fait appeler Lady Gucci jusqu'au bout, hein, c'est quand même bien un personnage digne d'une tragédie gréco-romaine, passionnée, arriviste, outrancière, elle voulait ramasser un maximum d'oseille. Alors sachez quand même que Lady Gucci, elle a réussi à soudoyer en prison, hein, ses co-détenus pour ne jamais avoir à passer le balai dans sa cellule, refusant même de sortir en conditionnel sous prétexte qu'il n'est pas question qu'elle travaille à l'extérieur, hein, elle qui n'a jamais travaillé. Une Lady qui clamait son innocence jusqu'au bout et qui a quand même un jour
d'ailleurs avoué à un journaliste ne pas avoir tué elle-même son mari, car sa vue déclinant, elle aurait bien eu peur de le louper. Voilà, donc ça, c'est quand même un sacré personnage de film. Donc on peut l'apprécier ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas, je trouve que pour un film, bon, elle s'y prête bien, hein, Lady Couture. Chien.
Il y a aussi une triste disparition dont vous voulez nous parler,
oui,
Sophie.
Oui, tout à fait. Alors ça ne vous a certainement pas échappé. Triste nouvelle, la disparition prématurée de l'immense directeur artistique Virgil Abloh à 41 ans seulement. Il était le directeur artistique de la Maison Vuitton, fondateur de la marque Off-White. Alors même si vous n'êtes pas calé en mode, hein, vous avez les réseaux sociaux, vous en avez forcément entendu parler, parce que depuis quelques jours, voire une semaine presque, sur Insta, les RIP Virgil fleurissent. Oui, dans la mode, c'est un peu comme ça. On est amis avec tout le monde ou amis avec personne, mais enfin du coup, ça revient au même. Alors, puisse ta gentillesse illuminer le monde des anges jusqu'à ce qu'on se retrouve, écrit Alessandro Michel, directeur artistique de Gucci. On est toujours dans le thème de l'au-delà, hein, chez Gucci, c'est très beau. Le styliste et le réalisateur Tom Ford a rappelé l'importance du designer avec son révolutionnaire label Off-White, qui a fait tomber les barrières en devenant le premier directeur artistique black pour Louis Vuitton. Preuve que dans la mode, il était quand même temps aussi que les choses changent, hein, que c'était résolument un entre-soi. Enfin, la très belle mannequin Gigi Hadid qui nous dit « Il donnait à chacun la sensation d'être vu et spécial. Je le vois maintenant comme notre Mickey Mouse, pour toujours avec nous, pour toujours adoré, pour toujours magique. »
Vous faites très bien Gigi Hadid.
Vous avez déjà fait assez bien, je suis contente. Bon, je ne suis pas sûre que dans l'au-delà, la référence à Mickey plaise, hein, parce qu'il a beau être souriant, Mickey, il est quand même un peu réac si on s'en réfère à son célèbre patriarche Walt Disney, conservateur, sexiste et fric contrôle. Comme quoi, on peut créer la plus grosse usine à rêve et être aussi peu détendu qu'un politique en campagne.
Une autre news, elle concerne Christina Cordula.
Oh là là, alors là, je me tourne tout naturellement vers Benjamin qui va vous adorez Christina Cordula. Eh bien, non contente de nous donner tous ses conseils stylistiques, Christina a créé sa propre marque de maquillage. Et comment s'appelle-t-elle la marque ?
Magnifique,
évidemment. Une ligne de basique pour le teint, parce que la mise en beauté, c'est un sujet très important, nous dit-elle dans un relooking. C'est même la cerise sur le gâteau. Comme les basiques de la garde-robe, les basiques de la trousse de maquillage nous permettent de nous sublimer au quotidien, dit-elle dans une interview accordée à Fashion Network. Et dans ces basiques, Benjamin a la clé de l'embellisseur de teint, c'est la base, le correcteur au taquet et le duo bronzer highlighter en veut de la lumière.
C'est le nom des produits, ça.
C'est le nom des produits, c'est génial. Hein. Donc voilà, ben Benjamin avec ça, avec un jogging peau de pêche et un top nude, vous serez 100% dans le thème belle peau et transparence pour
parfait.
La rentrée. Et enfin,
au rayon haute couture.
Demain, je me suis dit, je voulais vous en parler, le défilé des métiers d'art de Chanel.
Ça
va être somptueux dans le siège qui réunit toutes ces maisons, baptisé le siège le 19M. Alors pourquoi 19M ? M comme main, mode, métier, maison, manufacture, puisque l'idée de ce défilé, c'est de replacer l'artisanat au cœur des préoccupations et de découvrir des savoir-faire incroyables. Je ne sais pas si vous connaissez le métier de fleuriste artificiel, gantier, plisseur, plumassier.
Génial, ah, ça fait rêver.
Très très beau. Et 19, en hommage à l'arrondissement où se trouve cet exceptionnel bâtiment, porte d'Aubervilliers, hein, a priori plutôt détonnant, avec l'image même de Chanel. Mais c'est bien simple, une robe haute couture peut aller jusqu'à 600 heures de travail, avoisiner plusieurs centaines de milliers d'euros, tout ça pour une poignée d'acheteuses dans le monde. Mais bon, quand on aime les filles, on ne compte pas.
Oh, très bien. Merci beaucoup Sophie Braffman pour cette chronique presque croustillante, hein, par certains points évidemment.
Très croustillante.
Bah oui, c'était croustillant. On a parlé potins, on adore ça. À présent, on va aller dans un autre secteur qui aime peut-être les potins aussi. On va voir ça avec Benjamin Lebec. Aujourd'hui, vous avez mis les mains dans la terre pour pouvoir nous parler du lin.
Et oui, tenez les filles, je vous ai même rapporté
un petit
bouquet de lin. Je suis désolée, c'est pas des roses.
C'est très mignon. Ça se mange.
Mais non, ça ne se mange pas. Comme ça.
C'est du lin séché.
Alors, ce sont les Égyptiens qui les ont utilisés en premier pour faire des cordes en lin. Ou aussi en faisant des fines bandelettes, vous savez, pour enlacer les cordes des momies des pharaons. Et à votre avis, est-ce que vous savez quelle quantité de lin est-ce qu'il fallait pour momifier un adulte?
Mais ça doit être énorme.
Énorme, ouais.
Une tonne.
Alors, en tonne, je sais pas. En fait, on avait besoin d'un kilomètre de lin pour momifier un adulte.
20 000, je sais pas quoi. Je vais annoncer un chiffre, hein, comme ça, je suis sûr, c'est jamais.
Et par la suite, on va faire avec le lin donc des textiles, des vêtements. Et au 19e siècle, eh bien, le coton arrive. Conséquence, on va délaisser petit à petit le lin. Mais il revient en force depuis 10-15 ans, notamment dans le monde des cosmétiques, comme ces carrés démaquillants lavables. Donc, ils sont faits en lin et c'est la marque Linae qui les fabrique. Et en plus, c'est écolo, hein, puisqu'on estime qu'avec un carré lavable comme ça, eh bien, on remplace entre 300 et 500 cotons jetables.
Ça, c'est génial. Mais on peut mettre aussi du lin sur son visage, Benjamin ?
Oui, très bonne
idée. Prenez le bouquet et vous frottez sur la joue.
Vous allez plutôt utiliser ces crèmes. Très bonne idée sur le visage, le corps. En fait, les marques utilisent de plus en plus la graine de lin pour en faire une huile que l'on va pouvoir s'appliquer sur le corps. On a également des crèmes visage enrichies en huile de lin. Et l'hiver, c'est l'idéal puisque avec le froid, vous savez, on a tendance à avoir une peau un petit peu plus sèche. Mm-hmm. Et l'huile de lin a cette capacité incroyable d'empêcher la peau de dessécher, comme l'explique Kathleen Emery, qui est responsable des soins de la peau chez Mavala.
L'huile de lin contribue à retenir l'eau dans l'épiderme. Donc c'est ça qui va améliorer vraiment la capacité à retenir l'hydratation dans la peau et à apporter aussi des lipides qui vont être complètement nutritifs et protecteurs pour la peau. Donc c'est idéal pour les peaux sèches.
Et plus étonnant encore, l'huile de lin, on l'utilise aussi pour apaiser certains petits problèmes de peau que vous connaissez bien, Mélanie, comme l'acné. C'est ce que nous explique la dermatologue, le docteur Nina Ross.
L'huile de lin peut être appliquée sur des acnés modérés et plutôt des acnés inflammatoires, donc faites de boutons rouges. C'est intéressant parce que c'est un produit qui est assez fluide et qui est donc anti-inflammatoire. Attention toutefois, c'est un corps gras qui va pas convenir aux acnés rétentionnels, faites de petits boutons blancs, de comédons, de points noirs. Donc quand on a la peau qui est déjà très grasse, faut peut-être pas utiliser l'huile de lin ou aucune autre huile d'ailleurs.
Et Benjamin, pour les cheveux très secs comme les vôtres, est-ce que ça peut être utile éventuellement, l'huile de lin ?
J'accepte. Alors, c'est exactement comme pour la peau, hein, donc excellent pour les cheveux secs. On va pouvoir en appliquer sur les pointes. Tenez, vous avez une huile de lin à appliquer donc sur les pointes si vous avez cette sensation de paille ou de cheveux cassés. Et puis, l'huile de lin, on peut aussi la retrouver dans des shampoings et ça va permettre en fait de redonner du volume à votre tignasse, comme le dit Stéphanie Gastalin, qui est la fondatrice de la marque Linae.
La graine de lin va être vraiment très intéressante au niveau capillaire parce qu'on va pouvoir utiliser les deux phases, l'huile et le gel. Ça va donner un effet tuteur, ça va gainer le cheveu, ça va donner un gonflant au niveau des cheveux, donc ça va vraiment être très intéressant pour cet effet tuteur, pour vraiment donner vraiment du volume aux cheveux qui peuvent être un peu plats. Donc c'est pour ça qu'on va les retrouver à la fois dans des shampoings ou des soins pour les cheveux, vraiment focus volume.
Et on peut aussi utiliser cette huile. Moi, je le fais pour gainer les cheveux.
Ça en se fait, voit vous pas faites. Trop, hein, c'est
non,
pas très
mais là, ils sont attachés. Mais quand je les détache et que je veux me faire des boucles, eh ben, j'en mets et je gaine.
Il ne faut pas les mettre en racine. Hein, c'est beaucoup trop grave.
Non, c'est
Benjamin,
beaucoup trop grave.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut la manger, cette huile de lin ? J'y reviens.
Oui, exactement. Alors, pas celle-ci parce qu'elle n'est pas comestible. Mais l'huile de lin, elle est excellente à déguster pour accompagner, par exemple, une salade. Hein. Toujours la manger à froid, hein, ne jamais la cuire.
Ah oui.
Sinon, elle va rancir, elle va tourner, c'est pas bon. Et ensuite, il faut savoir que cette huile, c'est la championne en oméga 3, donc ça va protéger votre système cardiovasculaire, ça aide aussi au bon fonctionnement
des
neurones.
C'est bon pour fabriquer des ménuleux peut-être, Sophie ? Non, je ne sais pas. Que
vous l'utilisez, vous, l'huile de lin ?
Oui, je l'utilise en salade, c'est très très bon.
Voilà, exactement. Et puis l'huile de lin est aussi gorgée de vitamine E et d'antioxydants comme les fameux flavonoïdes, donc ça va retarder l'apparition des rides.
Ah, pas mal.
Et ça pousse...
Un peu d'agriculture pour finir.
Bah oui, ça pousse où le lin ?
Alors le lin, donc, ça pousse principalement en France, on est le premier producteur. On en fait pousser dans des régions tempérées et humides, hein, donc le nord de la France, donc la Picardie par exemple, la Normandie, la capitale du lin est à Doudeville en Seine-Maritime, et puis on va aussi en retrouver dans le nord de la Bretagne.
D'accord,
bon, il nous reste très utilisé en textile.
Secondes, là.
Ben voilà,
ah oui,
j'allais me tourner vers vous parce que je me dis, il reste 30 secondes.
Et, ben,
et moi je trouve qu'on n'a pas bien entendu votre chanson de Hollande.
Vous voulez que je vous rechante la chanson,
que ça pourrait faire une belle chute.
Oui, alors voilà, je vais chanter la chanson de Saint-Nicolas. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laasje, dank je Sinterklaasje. Ah, si on m'avait dit qu'un jour on ferait chanter une chanson néerlandaise à la radio.
Et bah, merci
Saint-Nicolas quand même.
Merci beaucoup Sophie Braffman, vous
merci.
Êtes une super chanteuse. Et merci Benjamin Lévesque, vous êtes
je suis pas un si bon chanteur moi.
Excusez-moi. Ouais, merci pour ces belles découvertes beauté. Avec vous, on est certaine de ne jamais rater les dernières tendances du monde de l'esthétique. Heureusement que vous êtes là pour assurer cette veille, je vais dire vieille beauté, veille beauté pour nous, même si on est des vieilles beautés. Merci à tous les trois, on vous retrouve très bientôt et donc bien fait pour vous, touche à sa fin, on sera évidemment de retour demain dès 11h et Mélanie, demain, quel sera notre premier sujet du jour ?
Alors Julia, vous savez, dans Bien fait pour vous, on parle souvent de partage, de prendre soin des autres, mais cette fois, on va se la jouer perso, on va faire l'inverse, on va voir que se faire passer en premier, être égoïste, c'est même si bien. C'est très mal vu, ça peut être parfois très bénéfique pour notre bien-être, on vous expliquera comment vous y prendre.
Et d'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le compte de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.